de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La Chine continentale signale qu'il y a de nouveaux cas locaux de COVID-19. Mahfoud dit que l'Indonésie n'a aucun dossier de violation des droits de l'homme aux Nations Unies. Mahfoud MD a déclaré que le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme appréciait le traitement de Paniai. L'ONU considère la journée de l'environnement comme un moment important pour l'Indonésie. L'Indonésie pousse les biocarburants pour une transition énergétique juste et équitable. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales visite la Norvège, l'Islande attire les investissements énergétiques. FMIPA UI Riken Japon collabore pour développer une technologie complexe. Voici le journal complet. La Chine continentale a signalé mercredi 15 juin 42 cas confirmés de COVID-19 transmis localement, dont 14 à Pékin, 13 dans la région autonome de Mongolie-Intérieure et 9 à Shanghai. Selon la Commission nationale chinoise de la santé, jeudi 16 juin, cité par Xinhua, au total 38 nouveaux porteurs asymptomatiques et asymptomatiques locaux du virus viennent d'être identifiés dans 6 régions de niveau provincial, dont 21 en Mongolie-Intérieure, 7 à Shanghai et 4 à Pékin. Suite au rétablissement de 65 patients atteints de COVID-19 qui ont été autorisés à quitter l'hôpital mercredi 15 juin, 948 cas confirmés de COVID-19 sont toujours en cours de traitement dans toute la Chine continentale. Aucun nouveau décès dû à la COVID-19 n'a été signalé mercredi. Le nombre total de décès dû à la COVID-19 en Chine continentale a jusqu'à présent été enregistré à 5226 personnes. Le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfoud MD, a déclaré que l'Indonésie n'a pas de dossier de violation des droits de l'homme au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il a déclaré cela lors d'une conférence de presse virtuelle concernant sa visite au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, en Suisse, comme surveillé sur la chaîne YouTube du ministre de coordination pour les affaires politiques, juridiques et de sécurité à Jakarta, jeudi. Selon Mahfoud, dans le discours d'ouverture de la 50e session du Conseil des droits de l'homme prononcé par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Indonésie n'est pas incluse dans la liste des 21 pays dont l'évolution des droits de l'homme est devenue la référence par eux. Ainsi, Mahfoud a également déclaré que l'Indonésie avait été trois fois consécutive 2021 à 2022, n'est pas en paix évaluée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies comme ayant des problèmes liés aux violations des droits de l'homme. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a apprécié la performance de Biko, le procureur général indonésien, dans le traitement des cas de violations flagrantes des droits de l'homme à Paniai. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et des scrutés, Mahfoud MD, lors d'une conférence de presse virtuelle jeudi concernant sa récente visite au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, en Suisse. Au cours de la visite, le ministre Mahfoud MD a rencontré la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Mahfoud a déclaré que Bachelet a exprimé sa gratitude au bureau du procureur général indonésien, qui est plus sérieux dans la gestion des violations flagrantes des droits de l'homme. La gestion se fait par le traitement de l'affaire de Paniai, en Papouasie, devant le tribunal. Mahfoud a également déclaré dans le discours d'ouverture de la 50e session du Conseil des droits de l'homme par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme que l'Indonésie ne figurait pas sur la liste des 21 pays dont l'évolution des droits de l'homme était devenue la référence par eux. La coordinatrice résidente des Nations Unies, ONU, pour l'Indonésie, Valérie Julian, a déclaré que la journée mondiale de l'environnement qui est tombée le 5 juin était un élan important pour l'Indonésie en tant que plus grand pays archipel du monde et en tant que président du G20 cette année. C'est ce qu'a affirmé Julian lors de l'événement célébré la biodiversité aquatique antérieure de l'Indonésie à l'école naturelle de Matoa à Depok, Jawa Occidental, jeudi. L'ONU Indonésie elle-même a organisé un certain nombre d'activités liées à la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement, y compris l'événement qui s'est tenu à l'école naturelle de Matoa. Là, elle a interagi avec les élèves de l'école et a encouragé l'importance de protéger la biodiversité marine. L'événement a été organisé en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche. L'Indonésie encourage l'utilisation des biocarburants pour parvenir à une transition énergétique juste, équitable et centrée sur les personnes. C'est ce qu'a déclaré le président d'expert du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales pour la planification stratégique, Yudo Dwinanda Priya Adi, dans une série de webinaires sur le thème « Les biocarburants pour l'économie verte » dans la série de la présidence indonésienne du G20 2022 organisée par le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales. Yudo expliquait qu'en Indonésie, le programme obligatoire de biodiesel en 2021 avait produit environ 16,3 millions de kilolitres, une augmentation par rapport aux 13,3 millions de kilolitres en 2020 lors de la pandémie de COVID-19. Ce chiffre en 2020 est encore plus élevé qu'en 2019 à 12 millions de kilolitres. Yudo espère également que l'ampleur massive du développement de l'économie verte s'étendra également à d'autres pays du G20. Le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales, Arifin Tasrif, a effectué une visite de travail en Norvège et en Islande du 13 au 16 juin 2022 pour attirer des investissements dans le secteur de l'énergie, en particulier les énergies renouvelables en Indonésie. C'est la déclaration de l'ambassade d'Indonésie à Oslo, reçue à Jakarta jeudi. Au cours de sa visite en Norvège du 13 au 15 juin, le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales de la République d'Indonésie a tenu une réunion bilatérale avec le ministre du Pétrole et de l'Énergie de la Norvège, Terje Aasland, et a ouvert les 9e consultations bilatérales sur l'énergie entre l'Indonésie et la Norvège, INBEC. Le ministre Arifin Tasrif a également tenu une série de réunions d'affaires avec un certain nombre d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, à savoir Tangfo, Scatec AS, Ocean Sun et Fred Olsen, les sociétés pétrolières et gazières Equinor et Neptune et la société de batteries Freyr. Lors d'une visite en Islande les 15 et 16 juin, le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales de la République d'Indonésie a rencontré le ministre des Finances et de l'Économie d'Islande, Bjarni Benediktsson. Il a également tenu des réunions d'affaires avec des sociétés islandaises d'énergie géothermique, cherchant à accroître leurs investissements en Indonésie, à savoir Manfred Verkis Isor Enotech Energie. La faculté de mathématiques et des sciences naturelles de l'Université d'Indonésie, FMIPA UI, et l'Institut de recherche japonais RIKEN et le Centre RIKEN pour la photonique avancée ont développé une technologie complexe pour prévenir les flambées de chute d'effet chez les EVA. Sushika Dekare, le doyen de FMIPA UI, Dede Juwana, PhD, dans sa déclaration jeudi. Dede a déclaré que la collaboration a été réalisée dans le cadre du projet SATREP, Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, qui est un programme de coopération technique japonais basé sur la diplomatie scientifique et technologique qui a été créé en 2008. Le projet SATREP est soutenu et financé par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA pour une durée de 5 ans. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Visite prévue du président américain Joe Biden en Arabie Saoudite ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, la Maison-Blanche a annoncé mardi que le président Joe Biden se rendra en Israël, en Cisjordanie et en Arabie Saoudite à la mi-juillet. Ce sera sa première visite dans la région pendant son mandat de président des États-Unis. Biden doit se rendre en Israël les 13 et 14 juillet et rencontrera des dirigeants israéliens. Il tiendra également des entretiens en Cisjordanie avec l'autorité palestinienne pour exprimer son soutien à une solution à deux États entre les parties aux différends. Depuis Israël, Biden s'envolera pour l'Arabie Saoudite les 15 et 16 juillet. Pendant son séjour en Arabie Saoudite, Biden aura une réunion avec le roi d'Arabie Saoudite Salman bin Abdulaziz Al Saoud et le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman. Biden et le prince Mohammed bin Salman doivent tenir des pourparlers pour discuter de la sécurité énergétique, de la coopération bilatérale américano-saoudienne et des efforts pour résoudre les tensions régionales et mondiales. Biden doit également assister à un sommet du Conseil de coopération du Golfe. La visite du président Joe Biden en Arabie Saoudite contredit sa position antérieure. En 2019, Biden a déclaré qu'il leur ferait, l'Arabie Saoudite, payer le prix et leur ferait prendre conscience du fait qu'ils sont des parias. Autrement dit, l'Arabie Saoudite a fait quelque chose de si humiliant qu'elle mérite d'être exilée par d'autres pays. Il a déclaré cela au sujet de l'implication présumée du Royaume d'Arabie Saoudite dans le meurtre de Jamal Khashoggi. Lors de sa campagne pour l'élection présidentielle de l'année dernière, Biden a appelé les dirigeants saoudiens à être traités comme des parias comme ils devraient l'être. Peu de temps après avoir prêté serment en tant que président, Biden a publié un rapport de renseignement alléguant que le prince héritier saoudien avait autorisé le meurtre de Khashoggi. Le gouvernement de Biden a alors imposé des restrictions de visa à des dizaines de Saoudiens accusés de menacer les dissidents du royaume. Vu le fait que la relation n'est pas harmonieuse, on peut dire que la visite de Biden en Arabie Saoudite, cette fois, est une étape des États-Unis pour l'améliorer. Il s'agit d'une dynamique politique qui se produit généralement dans les relations entre pays. La visite de Biden en Arabie Saoudite reflète un changement dans les priorités diplomatiques des États-Unis. Si ce mouvement réussit, cela donnera une valeur positive au leadership de Joe Biden. Cependant, cela peut aussi se retourner contre lui, ce qui représente un risque négatif pour le dirigeant américain en public. Bon, cher Joëtard, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانغ جنج شوي بي تاي كاو جاو يي فانغ شي سين سين غوانغ جوان بين دو فاي يان دي تشوان بو و دي كاو جاو باو هو ني يي دي كاو جاو باو هو وو
ايفيتي لا ديفوزيون ديل كوروناڤيروس كورتار لا كادينا دي ترانسميسيون usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 17 juin 1939, le sanctuaire de Fond de Muara Angke a été désigné comme réserve naturelle par le gouvernement néerlandais des Indes orientales. le sanctuaire de fond de Moranke est une zone de conservation dans la zone de forêt de mangrove sur la côte nord de Jakarta. Lorsqu'il a été désigné comme réserve naturelle, la superficie initiale de la réserve faunique de Moranke était de 15,04 hectares. Et ensuite, cette zone a été agrandie de sorte que dans les années 1960, il a été enregistré qu'elle avait une superficie de 1344,62 hectares. Avec l'augmentation de la pression et des dommages environnementaux, à la fois dans et autour de la zone de Moranke, une partie de cette zone de réserve naturelle a été endommagée. Ainsi, après 60 ans de statut de réserve naturelle, le gouvernement indonésien a changé en 1998 le statut de cette zone en réserve faunique d'une superficie totale de 25,02 hectares pour la réhabiliter. Bien que le sanctuaire de faune de Moranke soit le plus petit sanctuaire de faune d'Indonésie, son rôle est assez important. En fait, l'une des organisations mondiales de conservation des oiseaux, BirdLife International, a inclus la région de Moranke comme une zone importante pour les oiseaux sur l'île de Java. Le 17 juin 1962, finale de la Coupe du Monde au Chili. La Coupe du Monde de la FIFA 1962 était la 7e édition de la Coupe du Monde de la FIFA. La mise en œuvre de la Coupe du Monde a eu lieu au Chili le 30 mai jusqu'au final le 17 juin 1962. Le Brésil a remporté ce tournoi après avoir remporté le match final contre la Tchécoslovaquie avec un score de 3-1 qui a eu lieu au Stade National de Santiago du Chili. Le Chili a remporté la troisième place après une victoire 1-0 contre la Yougoslavie dans le match pour la troisième place dans le même stade. Le 17 juin est célébré comme la journée mondiale de la lutte contre la dégradation des terres et la sécheresse. En 1994, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 17 juin comme journée mondiale de lutte contre la dégradation des terres et la sécheresse. La commémoration vise à sensibiliser le public aux efforts internationaux de lutter contre la sécheresse. Cette journée est un moment unique pour rappeler à tous que la neutralité de la dégradation des terres peut être atteinte par la résolution des problèmes, une forte implication communautaire et une coopération à tous les niveaux. Le thème de la Journée mondiale de lutte contre la dégradation des terres et la sécheresse de cette année est « Se relever ensemble de la sécheresse ». Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international Voice of Indonesia VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étriants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de la Voix de l'Indonésie Voice of Indonesia.
Ini hidupku, bukan hidupmu. Tak perlu ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil.
Jangan maafkan jauh-jauhkan langkahmu. janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana.
Janganlah aku katakan diimu,
kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Caraku bukan caramu, cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri dengar suara hati.
Janganlah
berhenti percaya, engkau pasti akan kesana. Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Aku lihat cahaya di sana, kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka,
chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est David Longten, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre... L'investissement dans les technologies de gestion de crise est crucial dans le secteur du tourisme et de l'économie créative. L'investissement dans la technologie de gestion de crise dans le secteur du tourisme et de l'économie créative est important à faire pour soutenir l'accélération de la reprise économique du pays. C'est ce qu'a déclaré la vice-ministre du tourisme et de l'économie créative, Angela Tanusudibio, lors d'un événement aux Maldives cité dans un communiqué officiel reçu Antara mercredi. 15 juin. Angela a entre déclaré que la crise varie d'une crise naturelle, d'origine humaine, économique, politique, au terrorisme et au changement climatique. L'impact de la crise peut affecter l'activité touristique, même chuter le secteur pendant plusieurs années. Par conséquent, elle a souligné que les investisseurs doivent investir dans la technologie pour accroître la sécurité du tourisme face à la crise. Selon Angela, mieux vaut prévenir que guérir chaque fois que la crise survient. Certaines femmes d'investissement dans la technologie comprennent l'arrêt précoce pour les crises naturelles sur les sites touristiques et les centres d'économie créative et le développement d'infrastructures solides pour anticiper les risques potentiels. Les technologies de plateformes de communication intégrées pour diffuser efficacement l'information face à une urgence. Angela a ajouté qu'en faisant face aux crises de changement climatique, elle a coopéré avec les acteurs de l'industrie pour introduire une nouvelle technologie, à savoir le calculateur d'empreinte carbone et la compensation pour les touristes afin de réaliser un tourisme de qualité et durable. Le programme de calculateur d'empreinte carbone est un effort du ministère du Tourisme et de l'Économie créative pour équilibrer les émissions. Il fonctionne en absorbant l'empreinte carbone pour aider à prévenir les mauvais impacts sur le climat. Ainsi, les touristes peuvent choisir de voyager de manière plus responsable lorsqu'ils visitent l'Indonésie. Selon Angela, le gouvernement dispose également d'autres technologies pour réduire les causes des catastrophes telles que l'énergie propre, les transports verts, l'écotourisme et la gestion des déchets. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Seperti samudra di bawah angkasa,
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps pour l'émission de Magazine Cultura. Vous êtes avec Maudrey et je vais vous présenter Grotte de Batu Apu, Kalimantan du Sud. Chers auditeurs, le sud de Kalimantan a une attraction touristique qui a beaucoup d'unicité. Elle se trouve pas très loin, à environ 75 km de l'aéroport de Samsudinor, Kalimantan Sud. Ici, on peut visiter la grotte de Batu Apu. En y voyageant, vous vivez une aventure à travers la grotte ainsi que la chasse aux photos instagrammables. Pour entrer, il faut payer un ticket de 5000 roupies par personne. Depuis le parking, il faut encore monter des dizaines d'escaliers pour se rendre à l'emplacement principal de la grotte qui se trouve au milieu de la colline. Ce jour tard, la grotte de Batu Apu est une grotte karstique. Cette grotte a une grande bouche de grotte et deux lèvres de grotte reliées par des escaliers en béton. À l'intérieur de l'embouchure de la grotte, il y a des stalagmites et des stalactites naturelles. L'atmosphère dans la grotte est noire. Il faut donc utiliser une lampe frontale ou apporter une lampe de poche. En visitant la grotte de Batu Apu, vous semblez entrer dans un autre monde. Vous pouvez trouver de grands arbres ainsi que des stalactites et des stalagmites. Les bruits des gouttelettes d'eau de stalactites et de stalagmites peuvent être entendus clairement. Si vous allez plus loin, il y a des roches à l'intérieur qui ont des formes diverses et uniques. Comme les gros morceaux, certains ont la forme d'appareils ménagers. Ce jour, il fait intéressant que la grotte de Batu Apu a un rayon de lumière qui est le moment où la lumière du soleil pénètre dans la grotte, ce qui contraste avec l'obscurité de la grotte. Ce moment se produit généralement entre 12h et 13h, heure locale. De plus, la grotte de Batu Apu possède également trois grottes secrètes qui ne doivent pas être visitées par le public. Seuls les Mapala, c'est les étudiants amoureux de la nature, et les chercheurs peuvent entrer. La grotte de Batu Apu est équipée de plusieurs installations qui peuvent être utilisées, à savoir une rangée de lapos ou des gazebos qui peuvent être utilisés pour se détendre. Vous pouvez également trouver des toilettes publiques dans cette grotte. Bon, cher Jouetard, c'est tout le magazine culturel.
Semakin menjauh tersadar diriku tak bisa. Semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa.
Serge Ritter, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur. Intitulée « L'équipe Antasena ITS développe des voitures à hydrogène ». Vous êtes avec moi Audrey. Chargé tard, l'équipe Antasena de l'Institut de la technologie Sepuluh Fambra a présenté son nouveau prototype de voiture appelé Antasena Alpha, vendredi 3 juin 2022. L'événement de lancement qui a eu lieu au bâtiment du Centre de robotique ITS a été suivi directement par le sous-gouverneur de Java Oriental, le Dr. H. Emil L.S. Tianto Dardak, Bebus MSC. Lors de l'événement, l'équipe Antasena a présenté de nouvelles fonctionnalités, des changements et des innovations avancées pour la voiture de l'équipe ITS Antasena qui participera au Shell Eco Marathon SEM Asia 2022. Concernant l'événement SEM 2022 lui-même, Géraldine a expliqué que l'hydrogène devrait remplacer les carburants conventionnels à l'avenir. De plus, les voitures à hydrogène ne produisent pas d'émissions car le produit est de l'eau. Par conséquent, son parti veut créer des voitures respectueuses de l'environnement pour un avenir meilleur et soutient divers programmes d'objectifs de développement durable, ODD. L'Antacena Alpha de 8e génération est une voiture prototype conçue fabriquée par des étudiants de l'ITS avec la première énergie hydrogène en Indonésie qui a été développée à partir de la voiture de la génération précédente. Il s'agit notamment d'Antacena 1er, d'Antacena PX, d'Antacena PEV, d'Antacena Orion, d'Antacena BDV 2.0, d'Antacena FCH 1.0 et d'Antacena Hydra. Antacena Alpha est conçu avec une conception de corps plus aérodynamique, un composite de fibres de carbone qui a des propriétés légères et rigides. Pour chercher tard, c'est tout l'Indonésie en couleur.
Dan menarungi dirinya Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de la Papouasie intitulée Yamko Rambe Yamko. Chers auditeurs, cette chanson raconte une histoire triste qui implique la vie du peuple papou qui était souvent impliqué dans des conflits tribaux ou des guerres contre les colonialistes hollandais. Bon, chers auditeurs, voici Ifan Suadi et Putri Reski. Vont chanter une chanson intitulée Yamko Rambe Yamko. Bonne écoute. La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international Voice of Indonesia VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étriens de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de la Voix de l'Indonésie Voice of Indonesia. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voixindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voix Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.